midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez, chaque jour, vous montrer que oui, la France bouge et que c'est grâce à vous. Aujourd'hui, gros plan sur ceux et celles qui révolutionnent nos musées en France à l'occasion du salon Museum Connection qui se tient pendant 48 heures. Vous allez voir qu'on peut mettre en valeur le passé tout en étant dans le 2.0. Elle révolutionne nos cuisines depuis 1826 déjà. Elle a même inventé la poignée amovible. Christelle est aujourd'hui l'entreprise qui va bien, merci. Et puis une conciergerie pour seniors, c'est la solution imaginée par la ville de Valenciennes pour aider les plus âgés sélectionnés au trophée de l'avenir. C'est ça, la France qui bouge, et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
3921, venez, on vous attend, décrochez votre téléphone pour composer le numéro du standard d'Europe 1 comme chaque jour et nous laisser votre message. Si vous aimez par exemple aller au musée et que vous avez des idées pour les visiter, vous n'hésitez pas, hein, tout simplement, vous venez partager votre expérience avec nous, Anissa.
Et venez nous dire comment vous imaginez le musée de demain, ça se passe au 3921, le standard d'Europe 1. Puis sur les réseaux sociaux, la page Facebook, Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et vous allez voir que nos déambulations dans les musées ont bien changé. Fini les temps où nous passions des heures devant les tableaux pour pouvoir lire la petite explication écrite en bas à gauche, en tout petit caractère, juste à côté de l'œuvre. Aujourd'hui, tout a changé. Nos invités y sont d'ailleurs pour quelque chose, pour les accueillir à mes côtés comme chaque jour. Elisabeth Assayag, bonjour.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est Marie-Éloi, fondatrice de Bouge ta boîte. Bonjour Marie.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous.
Vous avez été l'année dernière simplement au musée du Louvre, hein, 10 millions à visiter. C'est un record et c'est ce qui fait de ce haut lieu de la culture parisienne le musée le plus visité au monde aujourd'hui. Cette bonne santé, elle est due évidemment aux œuvres qu'il héberge, mais aussi aux méthodes qui sont employées aujourd'hui pour que le moment passé reste une expérience unique. Pour ça, toute l'année, il y a des gens qui réfléchissent. C'est le cas au sein de l'incubateur du Louvre-Lens-Vallée. Bonjour Wafa Madnous.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui le dirigez, cet incubateur. Ça fait 3 ans et demi maintenant qu'il a été créé. L'ambition, c'était justement de mettre le pied à l'étrier à ceux et celles qui avaient envie de faire évoluer cette expérience culturelle et qui avaient finalement les bonnes idées pour déboussiérer le musée.
Alors l'enjeu effectivement c'était d'accompagner aussi l'arrivée du Louvre à Lens qui est une antenne du Louvre Paris et l'objectif c'est toujours se rapprocher au plus près des citoyens et de leur apporter la culture même au public les plus éloignés. Donc Louvre-Lens-Vallée ça a été un rêve de se dire aujourd'hui on peut révolutionner la culture grâce à l'innovation, grâce au digital, faire ensemble aussi, faire participer, le créer ensemble c'est une valeur importante en tout cas que je diffuse au sein de l'incubateur. Et apporter aussi de l'attractivité et un renouveau à travers le monde, le prisme de la culture. Et dans la culture, je dis souvent, on peut aussi faire de l'innovation et de l'économie.
Oui, cette idée, vous l'avez dit, elle arrive finalement en même temps que le Louvre-Lens, qui est aussi en soi un début de transformation finalement de la culture, parce qu'on sort enfin, j'ai envie de dire, hein, du contexte parisien.
Tout à fait. Et au-delà de sortir des murs de Paris, on a un musée qui a complètement été repensé, ne serait-ce qu'en termes d'exposition. Donc la Galerie du Temps est en elle-même une innovation au niveau conservation. Et on est de plus en plus proche du visiteur. On parle de plus en plus d'acteurs visiteurs. Il faut faire participer les acteurs. Mais ça, c'est même indispensable dans tous les secteurs d'activité. Au plus on les ancrera, au plus on les fédérera et au plus l'expérience sera positive. Et donc finalement, toutes ces innovations, toutes ces technologies, ces innovations d'usage aussi, j'y tiens, il n'y a pas que la technologie, hein. Il faut d'abord penser l'usage, c'est hyper important. Et pour penser un usage pertinent, il faut se rapprocher des utilisateurs et des visiteurs.
Alors c'est ce que vous faites, notamment avec les entreprises que vous accompagnez, qui réfléchissent hein, justement à tout ça. Par exemple, aujourd'hui avec Muséopic, Octus ou Promotech. Promotech, tout simplement, elle a participé, on ne le sait peut-être pas, aux 500 ans d'Orléans. Grâce à des objets connectés, je vais essayer de simplifier pour les auditeurs qui nous écoutent, on pouvait avoir finalement des informations qui nous remontaient juste en étant placé à côté d'une œuvre ou d'un monument.
C'est ça, ça rentre dans la catégorie objets connectés. Donc ce sont des petits capteurs finalement qui ne prennent pas de place et qui en plus de ça ont une technologie assez pointue qui permettent de faire de la remontée d'informations en temps réel sous la forme que l'on souhaite. Donc pour les 500 ans de la Renaissance à Orléans sur le thème de Jeanne d'Arc évidemment, l'objectif c'était d'apporter de l'information aux visiteurs à travers la plateforme qui lui convenait, notamment son smartphone. Donc ça vient il suffit de vous connecter sur un portail ou sur un lien et vous allez avoir accès à des informations pour finalement, moi ce que j'aime là-dedans, c'est toujours vous rapprocher au plus près de l'artiste et de l'œuvre. Et donc, on crée du lien et quand on crée du lien, eh ben, on vit finalement la visite et l'expérience différemment. Et c'est le but.
Elisabeth, la digitalisation, c'est le maître mot. Hein. Il y a beaucoup de musées qui se mettent sur cette route-là.
Complètement. Vous avez aussi l'Atelier des Lumières. Hein. C'est le seul musée au monde à avoir été conçu entièrement en numérique. Il n'expose aucun tableau, aucune sculpture ou une œuvre matérielle. L'Atelier des Lumières propose à ses visiteurs une immersion physique dans des tableaux déployés dans tout l'espace du musée grâce à un procédé inédit d'art immersif. Le brevet, c'est Amiex. Il a été imaginé et mis en place par Culture Espace. C'est un opérateur privé dans la gestion et la mise en valeur des monuments. Vous avez aussi le musée d'Orsay, l'Orangerie, ou encore en Corse, tiens, ça va peut-être vous faire plaisir, Raphaël, à Bastia, qui va accueillir un musée Microfolie qui proposera une galerie d'art virtuelle et gratuite et qui réunit sous forme numérique plus d'une centaine de chefs-d'œuvre de 10 institutions nationales.
Ce sont des projets comme ceux-là que vous accompagnez, que vous aidez à grandir, à se développer. Je crois que vous en avez accompagné une cinquantaine, c'est ça, au sein de l'incubateur ?
Tout à fait. Alors j'aime à dire qu'on est ce qu'on appelle un bébé cluster. On a 3 ans et demi, donc c'est récent. On est parti d'une feuille blanche et aux côtés du Louvre à Lens, des pouvoirs politiques. Puis surtout, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'il y a une vraie volonté d'accompagner la transformation d'un territoire qui a fait le pari de la culture et de l'innovation. Donc notre objectif, c'est effectivement d'accompagner des projets qui répondent à nos valeurs, parce que nos valeurs, elles sont importantes. On est très focus humain avant projet. Je suis convaincue qu'un entrepreneur qui sait où il va, sait d'où il vient et qui connaît ses forces et faiblesses a plus de chances de réussir dans l'aventure entrepreneuriale. Donc oui, on accompagne des projets de la sorte, mais pas que. La culture, je dis souvent que c'est quand même large, et donc ça peut toucher à l'architecture, le design, la musique connectée, la gestion des data, l'audiovisuel.
Beaucoup de choses. Je suis sûre que ça parle à notre coach, Marie.
Alors moi, j'ai découvert grâce à vous tout un monde, parce que je pensais naïvement que business et culture, ça faisait pas forcément bon ménage. Et en fait, si, parce que vous accueillez des entrepreneurs qui sont justement dédiés à la culture. Et ça ouvre tout un champ nouveau de démocratisation, d'inclusion sociale aussi pour la culture. Ça ouvre la culture finalement à tous, ça la démocratise. Donc déjà, bravo. Et ensuite, je crois que sur votre territoire, vous avez fédéré tous les acteurs de l'entrepreneuriat, de la culture, les collectivités locales, etc. Tout le monde autour de vous pour bouger tout ça. Et je ne suis pas sûre que ça existe ailleurs.
Selon un benchmark assez récent, c'est vrai qu'on est l'un des seuls incubateurs à faire ce que l'on fait parce qu'on a une vraie convention de partenaires avec le Louvre-Lens et qu'on peut expérimenter. Mmh. On fait des hackathons qu'on nomme Culturathon marque déposée dans le Louvre-Lens. Donc ça veut dire 36 heures non-stop où en gros on chamboule tout, on innove, on crée, on amène des publics qui n'ont jamais mis le pied au musée et qui repartent de là en disant « truc de fou, c'était trop bien ». En gros, là, on se dit, on arrive à allumer des petites lumières et ça crée un engouement. Ce n'est pas un projet simple. Effectivement, la multitude d'acteurs fait qu'il a fallu créer du lien et toute seule, je n'y serais pas arrivée. Donc, merci à tous ceux qui nous ont accompagnés depuis le départ.
Oui, c'est un projet important. C'est un très beau projet. On va continuer à parler justement de culture, de musée et de digitalisation ensemble aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h08.
Europe 1.
On va vous emmener visiter, le château de Guillaume le Conquérant dans un instant. Mais attention aux épées sorties des fourreaux, car c'est une immersion qui vous attend grâce à Istovery.
Les musées font leur révolution et on en parle aujourd'hui. La France bouge, c'est une révolution digitale que nous vous faisons découvrir aujourd'hui avec vos invités. Raphaël Duchemin, vous pouvez continuer à réagir. 39-21, c'est le standard.
On a tous visité un château, un lieu de patrimoine en traversant les salons. On a tous essayé aussi d'imaginer comment c'était à l'époque. Eh bien aujourd'hui, on peut le savoir. Bonjour Edouard Lieusson.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous et à toutes.
Merci d'être avec nous. Vous avez cofondé Istoveri, alors on dit Istoveri,
Istoveri.
Bon, et inventé l'Istopad qui va nous permettre une immersion dans un lieu tel qu'il était avant. Je crois que c'est en 2013 que tout démarre hein, pour vous. Vous êtes à Falaise et il faut refaire la scénographie pour le fameux château de Guillaume le Conquérant. Problème, tout est classé, du coup on ne peut toucher à rien.
Alors effectivement, la ville de Falaise lance un appel d'offres à laquelle on répond. Et on s'aperçoit très vite qu'on ne peut même pas planter un clou dans un mur, quoi,
bah
parce
non.
que tout est classé.
Surtout pas.
Surtout pas. Alors même après la restauration très lourde qui a eu lieu dans les années 1990. Et du coup, on s'est dit, ben, il n'y a plus qu'une chose à faire, il n'y a plus qu'à créer quelque chose de virtuel pour plonger les gens dans le passé et leur faire découvrir le donjon et le château à l'époque de Guillaume le Conquérant, au XIe siècle. Donc on répond comme ça à l'appel d'offres et on gagne.
Et, donc, et c'est comme ça que vous commencez à imaginer bah, la structure actuelle, Istoveri, et puis la fameuse tablette.
Absolument. Donc les gens, tous les visiteurs sont munis de la tablette à Falaise et peuvent découvrir les pièces les unes après les autres, reconstituées au XIIe siècle. Et donc ils ont juste à scanner une porte du temps, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un marqueur qui permet de se repérer dans la pièce et de voir la pièce exactement dans l'axe où ils sont. Ils peuvent tourner à 360 degrés à l'époque de Guillaume le Conquérant. Donc ça plonge les gens effectivement dans une expérience immersive très forte.
Alors là on est à Falaise et puis vous partez avec votre tablette, vous allez à Chambord.
Alors on va à Chambord après. Donc là on s'est aperçu après Falaise qu'effectivement c'était la réaction du public a été très bonne. Donc on s'est dit bah tiens, on pourrait peut-être faire notre métier. Et donc avec mon associé on a levé des fonds pour lancer Istoveri. Et la première personne qu'on est allé voir, c'est Chambord, parce que Chambord a la réputation d'avoir des salles vides.
Des salles vides, oui.
C'est une réputation qui est un petit peu discutable, dans la mesure où il y a pas mal de pièces qui sont meublées, mais en tout cas, les salles Renaissance sont vides. Donc nous, on est arrivé avec une solution qui permettrait aux gens de voir le château de Chambord à l'époque de François Ier. Il y a très peu de meubles hein, qui restent de cette époque.
Oui.
Donc, il a fallu faire un gros travail scientifique pour reconstituer tout ça en 3D.
Mais alors, du coup, il y a la 3D d'un côté, il y a les historiens de l'autre pour arriver à mettre tout ça dans la tablette.
Alors, ça, c'est très important ce que vous dites, parce qu'effectivement, notre travail serait de faible valeur s'il n'était pas accompagné d'un comité scientifique qui est parfois très rigoureux, qui nous oblige à respecter justement les critères historiques. Et on réalise donc, normalement, on réalise des espaces qui sont validés scientifiquement. Donc ce que vous voyez à l'écran est historiquement validé ou plausible quand on ne sait pas.
Combien de projets aujourd'hui en cours ? Je crois qu'il y en a un qui sort bientôt.
Hein ? Alors il y en a un qui sort bientôt, il sort lundi prochain. Donc il est au château d'Amboise. Donc là ça va être un gros projet qui sort.
Et puis vous êtes présent sur les châteaux de la Loire, manière générale.
Voilà, j'ai entendu parler tout à l'heure des 500 ans de la Renaissance.
Oui.
Donc là on y sera, parce que là on a déjà maintenant 5 châteaux dans la Loire. On a Chambord, Blois, on vient de parler d'Amboise. Il y aura aussi Loches et Chinon qui seront présents pour les 500 ans. Donc voilà, ça fait déjà 5 châteaux de la Loire. En tout, on a une dizaine de projets, on en a encore 5 en préparation cette année.
Que dit notre coach, Marie-Éloi ?
Alors je crois que vous venez de l'univers des jeux vidéo, c'est ça ?
C'est absolument ça, oui.
Du coup, vous devez continuer à bien vous amuser à reconstruire de façon scientifique toutes les pièces, les châteaux, les musées, etc. Et j'imagine surtout qu'on en est au balbutiement encore. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir bientôt dans un musée avec la tablette, par exemple ?
Alors, c'est vrai qu'en venant de l'univers du jeu vidéo, on a tout de suite une relation très proche. Je vous entendais tout à l'heure parler du public. Avec le public, on est vraiment très, on s'intéresse beaucoup à la réaction du public. Donc, c'est vers ça qu'on veut aller. C'est qu'est-ce qui va satisfaire le grand public ? Qu'est-ce qui va leur faire aimer l'histoire ? Qu'est-ce qui va leur faire aimer de découvrir des choses historiques, des châteaux, etc. Et donc, c'est tout le travail que l'on fera et qui pourrait venir du jeu vidéo, c'est les travaux d'animation, c'est augmenter le niveau d'interactivité tout en se méfiant parce que le grand public n'est pas un public de gamers. Donc il faut rester très prudent sur un certain nombre de choses, mais c'est quelque chose de... Le jeu vidéo est une source d'inspiration, à mon avis, très intéressante pour le milieu de la culture.
Elisabeth, digitaliser les musées, c'est quoi l'enjeu finalement ?
Finalement, il est très simple. Hein. Là, on l'a vu, les musées vivent une période de transition. Souvenez-vous, à la fin du XVIIIe siècle, il s'agissait de rendre la culture accessible à tous. là, depuis 10 ans, depuis environ 2008-2009, on vit cette expérience digitale. Et donc, les musées doivent repenser leur modèle économique hein, pour être plus en face. Et surtout, il faut aussi augmenter les revenus. D'ailleurs, il y a certains experts, peut-être vous avez un avis là-dessus, qui annoncent qu'il faudrait en finir avec les prix fixes et pourquoi pas fixer des prix, comme vous savez, quand on achète des billets de train ou des billets d'avion, en fonction du taux de fréquentation.
Oui, ça me fait penser d'ailleurs que la tablette, suivant l'endroit où elle est disponible, elle est intégrée au prix ou elle ne l'est pas.
Voilà. Alors sur les très gros sites, comme par exemple Chambord ou d'autres sites de la région parisienne bien connue, le Louvre, Versailles, etc., là, il n'est pas question que la tablette soit disponible pour tous. Ce serait une location comme un audio guide.
6 euros, c'est ça,
voilà,
environ.
6 euros. Alors, c'est un peu plus cher qu'un audio guide, mais il faut dire que l'expérience est aussi complètement différente. Hein. Ce n'est pas du tout le même, c'est pas du tout la même expérience, en effet. Donc, en revanche, pour les plus petits sites, et ça, c'est important de le dire, pour les plus petits châteaux, pour les gens qui aimeraient faire venir des gens chez eux, il y a chez nous un business model qui permet justement de pouvoir satisfaire tout le monde, parce qu'à ce moment-là, le prix de la tablette est inclus dans le prix du billet. Et donc, les gens n'ont pas à débourser d'argent. Et quand ils arrivent, on leur donne tout de suite l'Istopad. Et ils ont l'expérience, j'allais dire, un peu de frais. Enfin, c'est gratuit pour eux.
On va continuer notre promenade dans les allées des musées avec vous dans un instant sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1.
Et avant d'entrer au musée, il y a la file d'attente et parfois trop de monde à l'intérieur aussi. Pour que la visite ne soit pas gâchée, Affluence a imaginé une solution. On la découvre ensemble sur Europe 1. A tout de suite.
À l'occasion du salon Museum Connection qui se tient aujourd'hui et demain Porte de Versailles à Paris, on parle de la révolution digitale des musées aujourd'hui grâce à vos invités Raphaël Duchemin. N'hésitez pas à poser toutes vos questions hein, dès maintenant au Standard d'Europe. Hein, c'est le 39-21 Raphaël.
Vous voulez aller au musée mais évidemment vous appréhendez de devoir faire la queue à l'extérieur et surtout de ne pas pouvoir profiter de la visite à l'intérieur à cause du monde. Eh bien, des Français ont imaginé la solution. Bonjour Paul Bouzol.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur d'Affluence. Affluence, c'est une appli qui nous permet de savoir en temps réel s'il y a du monde ou pas, tout simplement. C'est, je crois, pendant vos études hein, que vous avez eu cette idée, puisque vous en aviez marre de trouver du monde à la bibliothèque.
Exactement. En fait, cette problématique, elle est vraie en musée, mais elle est vraie dans beaucoup d'autres types d'établissements, à commencer par les bibliothèques auxquelles on a été confrontés quand on faisait nos études.
Oui, ou la piscine, hein, d'ailleurs, c'est
exactement,
un peu le même
ou
combat.
Ou la piscine, après avoir bien révisé pour se défouler. Et dans les deux cas, finalement, la problématique est similaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas certain de pouvoir profiter dans de bonnes conditions de notre activité ou pouvoir trouver de la place dans le cadre d'une bibliothèque pour pouvoir pas trop attendre à l'entrée d'un musée. Et donc avoir cette information en temps réel, ça serait vraiment bénéfique pour le visiteur, mais également pour l'établissement, puisque ça va pouvoir permettre de rediriger les gens vers les heures creuses plutôt que les heures pleines.
Donc là, par exemple, si je me connecte, votre appli, qu'est-ce qu'elle me dit si je veux aller au Louvre en ce moment? Là, elle va me dire précisément dans quelle salle je peux entrer, s'il y a du monde, pas de monde.
Exactement.
C'est comme ça que ça fonctionne.
Exactement. L'application, elle va vous dire d'une part quel est le temps d'attente actuel en temps réel, également quel est le temps d'attente pour chacune des entrées. Donc il vaut peut-être mieux prendre l'entrée pyramide plutôt que l'entrée carrousel, par exemple. Et elle va également vous donner des prévisions sur la journée pour vous dire que, par exemple, c'est peut-être pas le meilleur moment pour venir et qu'il faut peut-être prendre son temps pour déjeuner et venir dans une demi-heure, une heure. On attendra peut-être beaucoup moins d'une part et on aura peut-être aussi des conditions de visite qui seront beaucoup plus agréables d'autre part, à savoir moins de monde dans les salles ou moins de monde justement de manière générale dans les expositions.
Mais dites-moi, comment est-ce qu'elle le sait? Il y a des capteurs, c'est ça qui nous détecte quand on entre?
Exactement, il y a des capteurs magiques, entre guillemets, qui vous détectent à l'entrée de l'établissement.
Magique, ça veut dire que vous n'allez pas m'expliquer ce qu'il y a à l'intérieur des
Alors,
capteurs.
On peut rentrer dans les détails, mais on risque d'être un petit peu court en temps. Mais effectivement, donc, c'est des capteurs qui font de l'analyse de forme pour déterminer d'une part le temps d'attente, donc le nombre de personnes qui attendent à l'entrée de l'établissement, et également le nombre de personnes dans les salles, donc le nombre de personnes qui rentrent et qui sortent des salles.
Parce qu'il y a un temps donné pour rester dans la salle, on sait calculer ça aujourd'hui.
Alors on ne sait pas calculer combien de temps les gens vont rester dans la salle, mais on sait combien de personnes sont entrées dans la salle, combien de personnes sont sorties dans la salle. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que justement avec ces capteurs, on va être capable de savoir a posteriori combien de temps les gens sont restés dans les salles, ce qui est une information très précieuse pour l'établissement dans le cadre de ces statistiques, de l'étude du flux de visiteurs et du parcours de visite.
Ça fait 3 ans, je crois, que vous avez développé ce système. Vous dites que c'est encore perfectible, on peut encore améliorer?
Alors, on peut encore améliorer la fiabilité. On a dans tous les jours des nouvelles situations où on peut perfectionner dans des cas, par exemple, de faible luminosité ou des files d'attente très étendues. Mais là, on arrive sur une solution qui est vraiment très fiable, qui est vraiment très précise. Et l'un des meilleurs indicateurs pour le prouver, c'est finalement l'application mobile que les utilisateurs consultent, puisque finalement, chaque jour, dans chaque établissement avec lequel on travaille, ce sont finalement des dizaines d'auditeurs, voire des centaines, des milliers d'auditeurs qui vérifient l'information qu'on va donner sur l'affluence et qui vont nous faire un retour en nous disant si l'information est bonne ou pas.
400 établissements, c'est ça, voilà, choisis à l'heure actuelle.
400 établissements avec lesquels on travaille, plus de 500 000 personnes qui, chaque mois, consultent l'application mobile pour vérifier cette information d'affluence, et une note de l'application mobile de 4,5 sur 5, ce qui prouve que la formation est fiable.
C'est important, Elisabeth, parce qu'il y a justement une fréquentation des musées, en France en tout cas, qui va mieux.
Mais ça va beaucoup mieux par rapport à 2015, où les attentats de Paris avaient fait baisser la fréquentation. Là, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, le Louvre qui a battu son record en 2018. La direction parle d'une reprise spectaculaire de 25% par rapport à 2017, donc ça reprend. Au musée du Luxembourg, on affiche 42% de hausse de fréquentation avec 423 000 visiteurs. Et le numérique aussi a dopé ces hausses de fréquentation. Par exemple, la Sainte-Chapelle a également misé sur la modernité, sur le numérique, en créant une application dédiée à ses vitraux. Eh bien, elle a vu sa fréquentation augmenter de 20% en 2018.
Notre coach Marie.
Alors déjà, j'adore l'histoire du jeune étudiant qui va à la bibliothèque et qui, de son impatience, en tire de la créativité et une entreprise, une appli. Donc ça, déjà, bravo.
Merci.
Et puis, je voulais savoir, est-ce que ça existe ailleurs dans le monde et est-ce que vous avez des visées internationales?
Alors, première réponse, non. Et deuxième réponse, du coup, oui.
Tant mieux.
Mais effectivement, c'est assez surprenant. C'est une question qu'on nous pose souvent. Il n'y a aucune autre solution qui permet de connaître l'affluence en temps réel dans des établissements. Et même quand on regarde les très grands musées, les très grands sites touristiques ailleurs, le Met par exemple à New York, ne dispose pas de ce système-là. Et donc finalement, c'est une vraie fierté que d'avoir ça en France, dans la plupart des musées et établissements touristiques parisiens. Et c'est aussi finalement un critère de choix pour les touristes que d'avoir ce type d'information.
Vous avez rendez-vous, j'espère, à New York. C'est pris.
Le rendez-vous est pris.
Bon, tout va bien. On reste ensemble, on continue notre visite du musée aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h26.
Europe 1.
Et on vous attend. Venez partager votre expérience au musée avec nos invités sur Twitter ou alors au 3921. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1, c'est même la révolution digitale pour les musées avec ce salon, le Museum Connection qui se tient aujourd'hui et demain, porte de Versailles à Paris. Et c'est le moment où vous pouvez réagir, participer, poser vos questions, témoigner. 3921, c'est le standard d'Europe 1 et hashtag Europe 1, ça c'est sur Twitter, Raphaël.
Avec Marie-Éloi, la fondatrice du réseau Bouge ta boîte qui est avec nous aujourd'hui, qui est notre coach, avec évidemment Elisabeth Assayag qui m'accompagne, Wafa Madnous, directrice de l'incubateur Louvre-Lens-Vallée et là aussi Paul Bouzol, cofondateur d'Affluence également, ainsi qu'Edouard Lussan, cofondateur, directeur de production d'Istovery. J'ai envie de vous poser une question que je ne vous ai pas posée jusqu'à présent, c'est combien d'emplois avez-vous créé? Vous êtes présent depuis peu de temps finalement, hein, si on regarde vos histoires, vos parcours personnels et professionnels, peu de temps sur ce secteur et malgré tout, vous avez réussi à générer les uns et les autres de l'emploi et de l'emploi qui dure. Edouard Lussan.
Alors effectivement, on a commencé à deux. Et aujourd'hui, on est 25. Donc
25
équivalents temps plein en 4 ans.
En 4 ans. Voilà. Même chose chez vous, chez Affluence.
Voilà, c'est le point commun. On est tous les deux 25. Donc on a également commencé, nous, à 3 et donc maintenant 25 avec effectivement différents profils, à la fois ingénieurs, à la fois plus commerciaux.
Et côté incubateur, Wafa, oui. Alors là, c'est impressionnant. Les chiffres sont très bons. Et puis surtout, il y a un taux de durabilité, j'ai envie de dire, des startups qui démarrent. Elles sont là, au bout de 3-4 ans, elles sont toujours là.
Oui, alors si je vous donne les derniers chiffres, 2018, c'est 85 emplois créés. Et surtout, nous, l'indicateur qualité qui nous intéresse, c'est créer une startup, c'est bien, mais durer, c'est mieux. Donc, 4 ans après, on a un recul et on a 90% des entreprises qui sont encore pérennes et qui, pour certaines, se sont très bien développées. Pour d'autres, continuent leur petit chemin. Mais en tout cas, ont passé le désert des 3 ans que vous devez tous connaître.
Ça, ça plaît, je suppose, à Marie-Éloi.
Surtout que je crois que vous avez une bonne parité homme-femme, ce qui est hyper rare dans l'univers des startups.
Oui, effectivement, on s'est rendu compte, sans le savoir, parce que c'était tellement une démarche logique pour nous, qu'on a des chiffres plutôt bons et qu'on s'est rendu compte que versus les chiffres dans le monde de la tech et du digital, mais sont pas si bons en termes de parité homme-femme. Mais en gros, on est facilement à du 50-50 en termes d'entrepreneuriat, aussi bien féminin que masculin, et limite parfois plus féminin que masculin.
Donc, ce qui est hors du commun.
Ouais.
Alors, je vous confirme avec la question que nous pose Janine au 3921, qui nous appelle de Clamart. Elle dit « Je fréquente beaucoup les musées, je suis à la retraite, j'aime l'art. La dernière fois, je suis allée voir Giacometti au musée Mayol. Le problème, c'était le manque de banquettes pour pouvoir admirer une statue le temps approprié. De plus, et on y revient, les indications sont quasiment illisibles, à croire que c'est volontaire pour faire des économies sur le support. Bah là, ça y est, on l'a, le support, il faut le démocratiser. Il faut que tous les musées s'équipent, hein, finalement, aujourd'hui, Édouard Lucin.
Alors, effectivement, l'Istopa permet de lire des caractères dans sa langue, parce que bien sûr, l'Istopa est traduit en 12 langues, par exemple, à Chambord. Et ça permet aux utilisateurs de regarder quand ils veulent, d'où ils sont, et ne rien rater et ne pas faire la queue pour regarder un cartel. Le cartel, c'est le petit panneau dont vous parlez.
Oui.
Ne pas perdre de temps et choisir ses lectures au moment où il a envie.
Il y a énormément de choses qui bougent, hein, sur les cartels aussi. Je crois que vous êtes en train... Vous avez amené avec vous à Paris une des trois startups qui est à Museum Connection. Travaille sur les cartels aussi.
Oui, alors c'est la startup Protomotech qui en fait a développé des objets connectés qui font de la remontée d'informations en temps réel. Et ils sont en train de développer une nouvelle solution qui permet d'avoir des cartels interactifs et numériques.
Ça veut dire qu'on pourra avoir le détail sur nos smartphones ?
Par exemple, ou sur une tablette, enfin, tout dépend de l'outil qui est demandé. Mais l'idée, c'est d'avoir un maximum d'informations près de l'œuvre.
Elisabeth, on parle innovation digitale, vous en avez trouvé d'autres formidables aussi,
formidable,
hein, françaises, évidemment.
Mais évidemment, en France, on a énormément de talents et on est là pour vous les présenter. Par exemple, Iconem, c'est une start-up française qui fait revivre en 3D tous les patrimoines détruits par Daesh. Cette start-up, par exemple, a reconstitué la cité de Palmyre. Vous avez aussi Ask Mona. Ask Mona, c'est une étudiante française qui a monté il y a 2 ans un assistant personnel disponible 24 heures sur 24 sur Facebook Messenger, sur la messagerie de Facebook, et qui conseille en quelques secondes des expos, des musées ou des monuments à visiter. Tout ça, c'est pour inciter, pour accéder à la culture plus facilement. Ou encore Culture Move, une application de découverte du patrimoine français. Elle met à disposition tous les joyaux, les collections des institutions patrimoniales en les géolocalisant sur tous les supports numériques.
Voilà quelques exemples, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres à découvrir. Je pense à Natarom, hein, qui nous a appelé, qui propose d'emporter les visiteurs dans une ambiance olfactive. On ira les voir un de ces jours, c'est promis. Ils nous ont appelé au 3921, ils nous ont laissé un petit message. Je vous remercie à tous les trois d'être venus.
Merci.
Et on espère que ça va aider les Français à pousser encore plus la porte des musées en France.
Il est 13h34.
Europe 1.
Dans un instant, vous restez avec nous, on va changer d'univers, direction la cuisine où Christelle règne en maître depuis 1826. C'est l'entreprise qui va bien, merci.
Europe 1.
La France bouge jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et tous les jours, Raphaël, vous nous proposez de découvrir une entreprise qui va bien. Elle est française, bien sûr, et elle est peut-être dans votre cuisine aujourd'hui.
Oh, sûrement, cette entreprise, c'est Christelle. Bonjour Bernadette Dodan.
Bonjour.
Merci.
Raphaël.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui êtes la présidente de Christelle depuis 1986. Christelle, oui, qui va bientôt fêter ses 200 ans, puisqu'elle est née en 1826.
Mmh. Il y a quelques années près, oui.
À l'époque, déjà à Fesches-le-Châtel, on fabriquait des ustensiles en fer battu ou en cuivre,
oui,
martelé,
c'est ça.
Hein, c'est
tout
ça.
À fait, exactement.
L'entreprise, alors à l'époque, appartenait, et Anissa connaît bien, puisqu'elle a travaillé dans le Doubs, au groupe Japy. Ce sont les fils, hein, du fondateur, oui, qui vont, on peut le dire, révolutionner les choses, parce que c'est eux qui vont, par exemple, déposer, je crois, le tout premier brevet d'étamage.
Oui, en tout premier, enfin, ils ont déjà racheté un brevet d'emboutissage. Mais c'était assez sommaire comme procédé. Ils étaient au moyen d'un levier, mais bon, c'était la première presse malgré tout. Et puis, 19 ans après, ils ont déposé effectivement le premier brevet mondial d'étamage. Donc, Japy, depuis son origine, a toujours été à la pointe des avancées.
À la pointe de l'innovation.
Oui, tout à fait.
Bon, le problème, c'est qu'il y a les guerres et que les guerres vont quand même avoir raison du groupe. Le bilan est déposé à ce moment-là. L'arrivée du plastique va faire pas mal de tort aussi. Ensuite, l'entreprise va passer de main en main. Puis, il y a une tentative de reprise qui échoue en 1979. Ça devient... À l'époque, une coopérative d'ouvriers, c'est eux qui reprennent leur entreprise.
Ils ont relancé l'entreprise, ils l'ont nettoyée, etc. et redémarré leur fabrication au cours de l'hiver 82-83. Ils ont déclaré leur coopérative ouvrière en avril 83. La marque avait été vendue, donc ils ont trouvé une nouvelle marque. Ils ne pouvaient plus pas utiliser Japy, ils ont trouvé Christelle. Mmh. Voilà. Ils ont déposé deux marques. La première, Cristal, qui évoque l'éclat et la brillance, ça a été refusé par l'INPI. La deuxième, Châtel, en référence au village. Une objection qui venait d'une Américaine, qui a une enseigne commerciale, Chantal, qui est très connue aux USA, et qui prétendait que dans la consonance de la langue américaine, il pouvait y avoir confusion. Donc, ils ont fait une contraction des deux, et c'est comme ça que la marque Cristal est née. Voilà.
Et puis, votre mari va visiter le site. Oui. Et alors, bon, il est dessinateur chez Peugeot,
projeteur,
juste à côté. C'est lui qui a l'idée, qu'il a leur souffle, en tout cas, de la fameuse poignée amovible.
Absolument. Oui, oui.
Comment est-ce que ça lui
Oui, écoutez, parce que le produit qui sortait alors des ateliers de Japy, enfin de l'usine de Japy, était un produit tout à fait banalisé. Ben, je vais dire, comme il y a 30 ans, toutes les casseroles se ressemblaient de toute façon. Hein, tous les produits, il y avait vraiment... Rien qui distinguait même une marque d'une autre à ce sujet-là. Voilà, c'est un produit usuel auquel personne n'attachait d'importance, tant sur le plan de la technique, de la technologie et encore bien moins du design. Donc effectivement, ça c'était il y a 30 ans.
Ouais, et c'est important vrai... parce que c'est ça qui va leur donner un vrai coup de pouce,
entendu, mais c'est même
un
tellement,
peu d'air aussi.
C'est tellement ça et c'est tellement encore vrai aujourd'hui que ça nous a permis de redresser l'entreprise. En fait, c'est le concept cuisson-service à poignée amovible, donc un produit multifonction. On apporte autre chose, une très forte valeur ajoutée. Et aussi un design qui est remarquable sur un produit usuel quand même, mais qui valorise de ce fait-là ceux qui l'utilisent et en fait qui est parfait aussi pour réussir toutes les cuissons.
Alors quand on vous entend, on se dit c'est une saga formidable. N'empêche, vous avez refusé une première fois, puis vous avez accepté finalement de venir tenir les rênes de cette belle entreprise. Vous avez même hypothéqué votre maison à l'époque pour ça.
Oui.
Fallait le faire.
C'était pas prévu.
Non. Bah non.
Non. C'est un concours de circonstances qui a fait que j'ai un passé dans l'expertise comptable quelque part. J'étais devenue aussi conseil d'entreprise et c'est à ce titre-là que je suis rentrée pour répondre à une étude demandée par le sous-préfet et le préfet de région. Et puis je suis rentrée dans cette entreprise comme cela et j'ai été assez impressionnée par le courage des coopérateurs qui avaient redémarré, après 3 ans de fermeture, leur entreprise, voulant se reprocurer un emploi pour ceux qui n'en avaient pas trouvé. Et voilà, je m'y suis investie, c'est sûr. Et puis mon mari est venu me voir un jour et je lui ai demandé de visiter l'atelier. Et c'est là que l'idée a germé. Et comme il n'y a pas eu de repreneur à la suite de la sortie de ce concept cuisson-service à poignée amovible, on nous l'a proposé en disant « voilà, c'est votre bébé ».
Vous avez bien fait, hein, voilà. 600 000 pièces vendues par an, 12 millions de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'elle dit notre coach, Marie ?
Alors, je crois savoir, et vous allez me dire si c'est vrai, que quand une casserole est abîmée, qu'elle a pris un coup de chaud ou quelque chose comme ça, on peut vous l'envoyer simplement par la poste, vous la retapez et vous la renvoyez. Alors ça, c'est de l'économie circulaire avant l'heure, donc vous êtes... pionnière dans l'économie circulaire.
Et c'est tout particulièrement unique quasiment sur les articles de cuisson qui sont traités anti-adhérents. C'est-à-dire qu'on sait que l'anti-adhérent a une durée de vie qui est plus courte que la base du produit. Et quelque part, on jette les produits quand l'anti-adhérent est abîmé. Par habitude, on jette les produits. Donc, Christelle, on ne jette jamais un produit Christelle. Jamais.
C'est super.
Et aujourd'hui, vous êtes... produit Christelle. Et c'est nous qui appliquons l'anti-adhérent, mais c'est aussi nous qui rénovons l'anti-adhérent. Enfin, il faut tout renettoyer la casserole et on la refait à neuf. Mais c'est formidable, oui, parce que plusieurs fois dans la vie du produit, vous pouvez rénover l'anti-adhérent de votre produit.
C'est formidable, par ça. La centaine de personnes qui travaillent avec vous. Je précise que vous êtes leader en France et au Japon, parce qu'évidemment, là-bas, on apprécie les produits haut de gamme, les produits Christelle. C'est aujourd'hui l'entreprise qui va bien. Merci. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h45.
Europe 1.
Une conciergerie pour les seniors, c'est la bonne idée du côté de Valenciennes et c'est la solution sélectionnée au Trophée de l'Avenir dans la catégorie collectivité.
La France bouge jusqu'à 14h sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir la solution du jour. Aujourd'hui, elle concerne nos seniors.
Oui, vous savez qu'on continue à vous présenter les entreprises en lice pour les Trophées de l'Avenir d'Europe 1. Ils vont avoir lieu le 11 février prochain. Aujourd'hui, Elisabeth, vous nous présentez une initiative qui provient d'une collectivité. Ça se passe du côté de Valenciennes.
Oui, c'est une conciergerie pour seniors qui a ouvert depuis 2014. Elle s'adresse à des personnes âgées de plus de 60 ans. Aucun critère de revenu demandé, mais il faut qu'elles vivent à Valenciennes. Cette conciergerie propose des tas de petits services, comme par exemple apporter des repas aux personnes âgées, collecter du linge à domicile pour laver le linge, puis le repasser, accompagner la personne âgée d'un endroit à un autre, faire du bricolage, du jardinage ou tout simplement de la visite à domicile. L'objectif, c'est de ne pas laisser les personnes âgées dans l'isolement.
Bonjour, Orkelson.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes adjointe au maire de la ville de Valenciennes, responsable de ce projet. Il a démarré après des visites justement à domicile pour mieux cerner les besoins des seniors.
Oui, il fallait bien entendu mieux comprendre leurs besoins, leurs souhaits, qui était le souhait unanimement partagé par nos seniors de rester le plus longtemps possible à domicile, de garder ses repères, et c'est tout naturel. Et donc avec aussi l'aide du Conseil des seniors de Valenciennes, nous avons affiné ce projet pour en arriver donc à cette conciergerie, à une réorganisation aussi complète de nos services dédiés aux seniors, donc avec un pôle senior qui prend en compte d'une manière maintenant globale le senior dans sa vie quotidienne.
Donc vous avez étudié les demandes après toutes ces visites à domicile, et alors là aujourd'hui vous fonctionnez comment ? La personne doit vous solliciter, c'est vous qui allez vers elle, comment ça marche ?
Un peu des deux en fait, certaines personnes viennent directement vers nous parce qu'elles ont entendu parler de certains des services qui leur parlent, dont elles ont un besoin à un moment donné. Et puis on a aussi beaucoup de personnes qui nous sont recommandées, alors soit parce que nous avons un contact à un moment en tant qu'élu, vous savez, on peut lors de visites ou de manifestations rencontrer des personnes et se dire tiens, on peut leur apporter quelque chose, donc venez vers nous et nous venons vers vous, ou alors également par les centres sociaux, les maisons de quartier ou tout simplement des voisins parfois qui nous disent ben, je pense que ma voisine elle a quelques petits soucis, elle se sent seule et comment on peut l'accompagner.
Vous travaillez avec des associations, vous avez un réseau de personnes formées, dédiées à cela ?
Alors on a tout d'abord déjà formé nos agents au sein de la ville pour mieux comprendre les attentes, pour mieux répondre surtout à ces attentes. Et puis oui, on travaille sur certaines des prestations avec des entreprises du secteur,
comme des
entreprises en fait d'aide aux personnes hein, qu'on peut. Alors voilà, je peux vous les citer, mais je pense que ça ne va pas vous parler. Donc, mais voilà, des entreprises d'aide à la personne de manière classique, dont les personnes d'ailleurs pourraient aussi faire appel directement si elle le souhaitait, mais il n'y a pas ce petit plus en fait d'accompagnement global ensuite et de suivi. Et puis parce que il faut reconnaître aussi que le logo quelque part de la ville est aussi gage de sérieux, de garantie pour les personnes, et c'est très rassurant et surtout pour les personnes âgées.
Notre coach Marie.
En fait, j'ai vraiment aimé parce que c'est tellement demain, on est tous et on va tous être aidants plus tard,
et on va tous vieillir aussi.
Et on va tous vieillir aussi, et que ça soit pris en charge par la collectivité locale, et c'est admirable. Et j'imagine que c'est quelque chose qui est duplicable.
Complètement, oui.
Et quel est le modèle économique ? Est-ce que vous êtes à l'équilibre pour que d'autres collectivités aient envie de s'emparer de ce sujet-là et travailler avec les entreprises locales ?
Alors, l'équilibre est difficile à atteindre, hein, on ne va pas se le cacher. Pour autant, moi, je pense qu'on ne peut pas raisonner sur ce genre de service uniquement en termes de retour sur investissement, de rentabilité.
C'est du service public. Vrai,
voilà, ouais. Déjà c'est du service public et c'est du bien-être de la personne. Donc au final, c'est aussi du bien vivre en ville. Et donc je pense qu'on ne peut être que tous gagnants.
Combien de personnes est-ce que vous avez d'ores et déjà aidé? Vous avez un chiffre
alors,
à nous communiquer?
Le chiffre, il est un peu difficile à communiquer puisque les personnes travaillent sur plusieurs services. Donc c'est un peu... En moyenne, de manière, on va dire, quasi quotidienne, on a à peu près 200 personnes qui sont vraiment accompagnées tous les jours.
C'est un service qui est payant? Votre conciergerie est payante?
Certains services sont payants, d'autres ne le sont pas. Et quand ils sont payants, ils sont aussi en fonction des revenus des personnes. Donc certaines ne paieront quasiment rien, quand d'autres paieront un peu plus. Mais c'est aussi la notion de solidarité au sein de la ville. Et ça ne pose en tout cas aucun souci aux différents bénéficiaires de ces prestations.
C'est donc la conciergerie à Valenciennes, sélectionnée pour les trophées de l'avenir. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à voter aussi sur europe1.fr pour l'entreprise coup de cœur. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez. Merci Marie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous on se retrouve demain.
À demain,
Elisabeth.
Raphaël.
Nous repartirons au CES de Las Vegas parce que vous savez quoi, les entreprises françaises sont rentrées avec beaucoup, beaucoup de récompenses et elles seront à l'honneur demain sur Europe 1.
Cocorico, ça sera la fête. Donc demain à partir de 13h sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin.